Bonjour à chacun. Vous allez bien? J'ai trouvé ce matin ce qu'on a vécu, c'est un peu comme le Covid. Parce que ce sont des situations étant totalement inattendues, hors contrôle, et ça nous pousse à faire des choses qu'on ne ferait pas normalement, et à découvrir des choses qu'on ne découvrirait pas normalement. Et je trouve que la petite expérience qu'on a eue ce matin, ça nous rappelle l'importance de la simplicité. On est entouré de tellement de matériel et de ressources. Et parfois, je pense que Dieu, il trouve important de nous ramener à ce qui est très basique, très simple. Parce que parfois, il communique beaucoup mieux dans ce qui est vraiment basique et simple. Merci de votre accueil et merci pour la lecture. Je voudrais juste prier. Je vous invite à vous lever parce qu'on a déjà été assis un bon moment. Parfois, c'est fatigant d'être assis. On a besoin de bouger un peu. Donc, merci. On va simplement une manière aussi d'honorer Dieu. Nous te bénissons, Père, de ce que nous avons l'Écriture qui nous rappelle la vérité, qui nous rappelle ce que tu as accompli sur terre et ce que tu es dans le ciel. Et nous te demandons que, avec l'aide de ton esprit, nous puissions recevoir cet enseignement de l'Écriture, de manière à ce que tu puisses poursuivre ton œuvre en nous, te réjouir en nous, et communiquer ta joie et ta sainteté à d'autres, à travers la démonstration de notre vie. Nous prions cela dans le nom de Jésus. Amen. Voilà les deux chants que nous avons entendus et comme ça chantés dans notre cœur. Ils nous ont rappelé ce que Jésus a accompli de plus fondamental pour nous sur terre. Maintenant, la question que je voudrais vous poser, c'est lorsque vous pensez à Jésus au ciel, comment est-ce que vous imaginez son emploi du temps? Qu'est-ce qu'il est en train de faire au ciel?
Il fait l'avocat.
Pardon?
Il fait l'avocat.
Et il fait l'avocat, oui. Ça, c'est une chose très, très importante. Il est notre avocat. Mais enfin, les quelques versets qu'on vient de lire, ils répondent en partie à cette question. Et surtout quand on lit les sept lettres, on se rend compte que depuis le ciel, Jésus suit attentivement chaque église, et évidemment chacun de ses disciples, mais il suit attentivement chaque église, chaque regroupement de croyants dans le monde. Et il ne le fait pas à la manière d'un administrateur, vous voyez ce que je veux dire, tu as payé ta cotisation, les bâtiments sont en ordre, la comptabilité, ça va comment? Non, il le fait comme un berger. Comme un berger qui porte sur chacune de ses brebis une attention qui est pleine d'affection, pleine de tendresse, pleine de patience vis-à-vis de cette brebis. Et à ce titre-là, eh bien, Jésus s'intéresse à ce que nous croyons et aussi il s'intéresse aux signes d'amour que nous lui manifestons. Ça, c'est une chose importante à ses yeux. Et quand il y a quelque chose qui cloche dans ce que nous croyons ou quand on a des problèmes à manifester notre amour vis-à-vis de Christ, eh bien, Jésus s'arrange à nous le faire savoir par son esprit qui est son agent de communication entre lui et nous. Il est attentif, il nous suit. Maintenant, vous savez pourquoi Jésus prend tellement son rôle de berger à cœur? C'est parce que beaucoup est en jeu. Si ce que nous croyons n'est pas correct, nous égare, si nous perdons notre capacité à lui manifester de l'amour, beaucoup est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est déjà notre vie, notre relation avec lui, mais c'est aussi tout le travail, le long et coûteux travail que Jésus a accompli pour nous qui est remis en cause, c'est-à-dire son renoncement à la gloire des cieux, son incarnation, le fait qu'il ait vécu plus d'une trentaine d'années, en supportant ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, ses enseignements, sa mort sur la croix, sa résurrection pour nous donner la vie. Tout ça s'est remis en cause. Si son Église vit de manière inconstante, si elle n'est pas fidèle, si elle s'égare, tout cela est remis en cause. Et évidemment que Jésus Nous avons beaucoup à perdre si nous sommes inconstants, mais Jésus lui-même, il a beaucoup à perdre si son Église est inconstante. Parce que à quoi les gens du monde sont conduits s'ils voient une Église qui est inconstante, qui n'est pas ce qu'elle devrait être? Ben, ils sont en droit de penser que Jésus n'est pas vraiment venu dans ce monde. Ou en tout cas, il est venu, mais alors ce qu'il a fait, c'est franchement pas convaincant. Et l'Évangile, on ne va pas y croire, parce qu'en tant que gens raisonnables, on ne va pas se laisser embarquer dans des fables qui ne changent rien à la vie. Voilà ce qui est en jeu. Si l'Église est inconstante, si notre vie chrétienne n'est pas une démonstration de la réalité de Christ, de ce qu'il est en nous. Alors, c'est la raison pour laquelle Jésus demande à Jean d'écrire des lettres spécifiques à cette Église d'Asie. Et on voit, quand on les lit un petit peu attentivement, que dans chacune de ces lettres, il suit un petit peu le même ordre, la même structure. Il commence, sauf quelques exceptions, une ou deux exceptions, il commence par dire à ces églises ce qu'il y a de bon dans ce qu'elles vivent. Il le reconnaît, il le met en valeur. Et puis ensuite, il passe à ce qui est problématique, parce que ça arrive souvent dans les églises. Et parfois, c'est grave ce qui se passe dans les églises. Mais il ne s'arrête pas là, il ne s'arrête pas aux reproches. Il encourage les gens à changer, à se ressaisir, de manière à ce qu'au jour du jugement, comme il le dit à la fin de chaque lettre, pratiquement, qu'il puisse récompenser les vainqueurs, c'est-à-dire ceux qui ont accepté de changer, de se remettre en question, de revenir à une obéissance plus normale vis-à-vis de lui. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre un petit peu l'exemple de cette église d'Éphèse. Qu'est-ce que Jésus trouve de bon dans cette église? Alors, les versets 2 et 3 et 6 nous disent ce qu'il trouve de bon. Mais de manière générale, il dit « Je sais comment vous vous conduisez. Je sais que vous avez à cœur de bien faire. Je sais que vous travaillez dur. Vous êtes vraiment impliqué dans ce que vous faites. Et que vous êtes persévérant et que vous ne vous lassez pas. » Il dit aussi, vous, Éphésiens, vous avez fait particulièrement preuve de discernement et de fermeté spirituelle en plusieurs occasions vis-à-vis des méchants qui étaient dans l'Église. Qui sont ces méchants? Qu'est-ce qu'être un méchant selon la Bible? Alors, si vous regardez l'Ancien Testament, les méchants, ce sont ceux qui ont abandonné l'Éternel, ce sont ceux qui s'en prennent aux croyants, ce sont ceux qui les trompent. Ça peut être les cyniques, les gens qui se moquent de tout, les méchants. Les Éphésiens n'ont pas toléré que les méchants viennent infecter l'assemblée, la vie de l'assemblée, les relations dans l'assemblée. Et puis les Éphésiens se sont montrés aussi intransigeants, absolument fermes spirituellement vis-à-vis des faux apôtres, des gens qui prétendaient apporter l'enseignement de Jésus, mais qui en réalité le dénaturaient parce qu'eux-mêmes étaient trompés. Et ça, c'est intéressant parce que Paul, lorsqu'il a fait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse, il les avait avertis de ce problème. Je relis ce qu'il a dit à ce moment-là en acte 20. « Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous et ils seront sans pitié pour le troupeau. » Et puis, peut-être le plus choquant, de vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Soyez donc vigilants. Ben on peut dire, les Éphésiens ont pris le mot à cœur. Ils ont vraiment été vigilants. Et ils l'ont prouvé encore vis-à-vis des Nicolaïtes, qui incitaient les chrétiens de cette église à ne pas observer les recommandations que les apôtres avaient faites à la suite de ce qu'on pourrait appeler le concile de Jérusalem. Là, il faut peut-être rappeler rapidement ce qui s'est passé. Vous vous souvenez, dans le livre des Actes, il est question d'une grande réunion des apôtres à Jérusalem. Ça se passe aux environs de l'an 50, parce que la conversion des païens à la foi en Jésus a soulevé une question qui venait de la part des Juifs, et en particulier les Juifs qui étaient devenus disciples de Jésus et qui étaient convaincus que ces païens devaient d'abord devenir Juifs, se faire circoncire, et ensuite ils pourraient être sauvés. Et ça a été le grand débat de cette réunion. Et après de longues interventions de Pierre, de Paul, de Barnabas, etc., cette assemblée est arrivée à la conviction, non, on ne va pas imposer aux disciples issus du paganisme de devenir juifs, puisque nous-mêmes juifs, nous n'avons pas été sauvés parce que nous avons respecté la loi et nous nous sommes fait circoncire. Nous avons été sauvés parce que nous avons cru à ce message. On ne va donc pas faire de difficultés aux païens. On va simplement leur recommander un certain nombre de choses que je cite. Ils leur ont dit, et ça a été la mission de Paul et de ses compagnons, d'annoncer cela dans les assemblées d'origine païenne. Ils leur ont dit de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, probablement à cause des juifs qui étaient croyants aussi, pour ne pas les choquer, et puis surtout de s'abstenir de l'inconduite sexuelle. Et alors, qu'est-ce qu'ont fait les Nicolaïtes ? Les Nicolaïtes, ils ont contesté cette recommandation et ils ont expliqué aux chrétiens, mais vous, à cause de la liberté que vous avez en Christ, vous êtes tout à fait libre de manger des viandes sacrifiées aux idoles, vous êtes tout à fait libre d'avoir des relations sexuelles avec X ou Y. Ce n'est pas le problème, parce que ça ne touche que votre corps, ça n'affecte pas votre foi. Donc vous êtes libre. C'était un enseignement totalement hérétique, erroné. Alors, les Éphésiens, quand ils ont vu ce type d'enseignement émerger, ils ont réagi vigoureusement selon les enseignements qu'ils avaient reçus de Paul. Et ils ont résisté. Et au fond, on voit que cette église d'Éphèse, elle a persévéré dans la bonne doctrine en enseignant et en défendant l'enseignement qu'ils avaient reçu de Paul, et Jésus se réjouit de la fidélité de cette église. Très bon point. Seulement, vous avez remarqué que Jésus a autre chose à dire à cette église. Parce que l'église d'Éphèse, elle a aussi un problème. Et on le voit au verset 4, où Jésus dit, et ça, c'est la vraie amitié de Jésus. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « Il vaut mieux les coups d'un ami que les baisers d'un ennemi. » Eh bien, Jésus, il se comporte comme un ami de cette assemblée parce qu'il leur dit « J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Tu as abandonné ton premier amour. » Vous imaginez ce que les disciples d'Éphèse ont ressenti quand on leur a lu cette lettre la première fois. D'abord, il y avait la bonne part. Ils se sont réjouis, ça leur a fait du bien. Puis après, il y a eu le reproche de Jésus. Et Jésus qui leur dit qu'en dépit de toute la peine qu'ils se sont donnée pour enseigner, défendre les enseignements qu'ils avaient reçus de Paul, eh bien, il s'était passé parmi eux quelque chose de vicieux, quelque chose qui était arrivé progressivement, insensiblement, sans qu'ils s'en rendent compte. Et ce quelque chose, c'est qu'ils étaient tellement concentrés sur la personne et le discours de ceux qui menaçaient la doctrine qu'ils en ont oublié leur relation personnelle avec Dieu. Si vous voulez, l'effort apologétique de défense de la foi, ça a un petit peu éteint leur relation de cœur avec Christ et leur écoute humble de Christ jour après jour. Alors, ouais, vous pouvez imaginer la tristesse qu'ils ont dû ressentir. Un petit peu, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais un petit peu comme si votre conjoint où vos enfants vous disent, écoute, tu sais, tu fais tout bien, mais tu ne nous aimes pas. C'est grave. C'est terrible d'entendre une telle parole. Tu fais tout bien, mais tu ne nous aimes pas. Ça vous tue si vous entendez ça. Et c'est ce que Jésus a osé dire à cette église. « comme Paul le dit dans son chapitre 13 de 1 Corinthiens, je peux me dépenser jusqu'à l'épuisement pour l'Église. Je paraphrase. Je peux donner de tous mes biens jusqu'à mettre ma famille sur la paille pour Dieu, pour le service de Dieu. Mais si je n'ai pas l'amour, c'est rien. Je ne suis rien. Ça fait frémir. Ça nous ramène aux fondamentaux. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors, perdre son amour ou son premier amour pour Jésus, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie d'une certaine manière qu'on n'a plus une relation normale avec lui. Ça signifie qu'il nous reste une religion, en quelque sorte, des habitudes, des choses que nous faisons. Mais si mon amour pour Jésus se refroidit, en réalité, je suis en train de perdre tout, pas seulement une religion, mais je suis en train de perdre ce que l'Évangile est venu m'apporter, c'est-à-dire l'Évangile, c'est la bonne nouvelle d'une relation restaurée avec Dieu par Jésus. Et si je n'aime plus Jésus, vous vous rendez compte, ce qui me reste, ce n'est pas grand-chose. Alors, comme nous voulons être des disciples conséquents et sérieux et vivants, il y a une question qui se pose. Comment faire pour conserver ce premier amour pour Jésus ? Alors certains répondent, il faut aimer parce que aimer c'est plus important que tout. Et dans une certaine mesure, Paul donne raison à ceux qui affirment cela. Parce qu'à la fin justement de ce chapitre 13 de 1 Corinthiens, il dit trois choses maintenant, trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc, dans un sens, dire aimer, c'est le plus important, c'est juste. Alors, comment est-ce qu'on aime, d'après ce que disent certains ? Ben, les gens disent, il ne faut pas être trop à cheval sur la doctrine, parce que ça nous tue, ça nous divise, ça nous épuise. Donc, restons dans l'amour. Il faut simplement recevoir et vivre l'Évangile comme des enfants. Il faut aimer et louer Dieu spontanément, simplement. Ça, c'est le plus important. Mais ça, c'est... La simplicité est apparente dans ces paroles. Parce que affirmer, il faut simplement recevoir et vivre l'Évangile comme des enfants, est-ce que c'est vraiment la solution ? C'est vrai qu'il faut recevoir l'Évangile comme des enfants. Mais ce qui est aussi vrai, c'est qu'ensuite, il faut vivre l'Évangile avec la maturité d'un adulte. On ne peut pas rester enfant. Et parfois, ça, on a tendance un petit peu à l'oublier. L'apôtre Paul, il ne dit pas autre chose quand il parle, par exemple, de l'usage des langues et des prophéties dans l'Église. Il dit aux Corinthiens, « Mes frères, ne soyez pas des enfants dans votre façon de juger des choses. Pour le mal, soyez des petits-enfants. Mais dans le domaine du jugement, montrez-vous des adultes. Pas des enfants, des adultes. Donc, est-ce que louer et aimer Dieu, sans être trop regardant sur ce que nous croyons, est-ce que c'est vraiment la solution ? Et là, il y a une deuxième lettre de cette série de sept qui peut nous être utile, c'est ce que Jésus dit à propos de l'église de Thyatire. Parce que là, au verset 19 de ce chapitre 2, Jean doit écrire de la part de Jésus à l'église de Thyatire, « Je connais tes œuvres, je connais ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. » Vous voyez, Jésus ici adresse un compliment magnifique à cette église de Thyatire. Et en particulier, il signale une qualité qu'a cette cette église que n'a pas Éphèse. C'est-à-dire que à Thyatire, il y a l'amour. Mais quand on lit le verset suivant, on se rend compte qu'il y a à Éphèse quelque chose qui n'est pas à Thyatire. Je vous lis le verset 20. « Pourtant, j'ai un reproche à te faire. Tu laisses cette femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer au culte des idoles, en se livrant à la débauche et en mangeant les viandes des sacrifices. » Jézabel, c'est un nom très symbolique, hein, ça vous rappelle quelqu'un. C'était l'épouse du roi Akab, un roi d'Israël. Et cette Jézabel avait amené en Israël les cultes païens qu'elle pratiquait. Et Jésus se sert de ce rappel historique pour souligner le mal que cette femme qui se dit prophétesse a introduit dans cette église de Thyatire. Voyez, à Éphèse, les croyants avaient énergiquement rejeté l'enseignement des Nicolaïtes. Or, qu'est-ce que fait cette femme, Jézabel, à Thyatire ? Elle dit non, ça c'est un bon enseignement. On va le prendre pour notre église. Et elle a renseigné exactement ce que les Éphésiens, contre quoi les Éphésiens avaient lutté. Et malheureusement, à Thyatire, tous les disciples n'ont pas été unanimes pour rejeter cet enseignement. Ce qui fait que certains se sont laissés gagner par un tel enseignement, d'où le reproche de Jésus à cette église. Alors, il faut qu'on revienne à notre question. Comment est-ce qu'on peut garder et défendre la vérité tout en conservant un amour qui soit vrai et fort pour Jésus? Comment est-ce qu'on fait ça? Alors, Jésus, il nous coach pour ça. Il apporte une réponse à cette problématique pour l'église d'Éphèse. Et il dit, au verset 5, il commence, en tout cas dans la version que j'ai, qui est la version du semeur, ça commence par « allons ». Je pense que c'est dans l'intention du texte original. Jésus commence à dire aux Éphésiens « allons », c'est-à-dire « oh, ressaisissez-vous, vous n'êtes pas condamnés à la médiocrité, vous n'êtes pas condamnés à mener une vie spirituelle desséchée et triste, où je ne suis pas vraiment présent en relation avec vous. Allons !» Et puis il poursuit « Rappelle-toi d'où tu es tombé. Rappelle-toi ce que tu faisais dans le passé. D'où est-ce que nous sommes tous tombés un jour, après être devenus disciples de Jésus ? On est tous tombés, ou en tout cas un jour on a compris que on est tous tombés de cet état. Suivant évidemment, ça dépend aussi de notre expérience de conversion. Mais au début de la vie chrétienne, souvent, c'est un état euphorique. C'est un état où on ne tarde pas à obéir, où on est enthousiaste, on parle de sa foi librement. On est tout feu, tout flamme. Et moi, j'aimerais pas trop revenir à ce stade de ma vie parce que j'ai fait aussi beaucoup de bêtises dans mon enthousiasme. Mais en tout cas, il y a cette fraîcheur, il y a cet allant vis-à-vis de Dieu, il y a cette confiance. Allez, on y va, hop, on roule. On est tous tombés de cet état d'enthousiasme premier. Alors, qu'est-ce que Jésus attend de nous quand il nous demande de changer? Qu'est-ce qui doit changer en nous? Eh bien, peut-être qu'avec le temps, après qu'on ait perdu son premier amour pour Jésus, il est possible qu'on ait été gagné par une forme de scepticisme, si on est honnête avec soi, une forme de scepticisme, parce qu'on se dit, parce qu'on a compris, la vie chrétienne c'est plus compliqué que ce que j'avais cru ou ce qu'on m'avait expliqué au début. Ou bien on peut être gagné par une forme de cynisme, parce qu'on a vu des choses dans l'Église qui n'auraient jamais dû se produire. Des choses scandaleuses, des abus, des souffrances, des mauvais comportements. que nous pouvons avoir eue. Et on devient cynique. On dit « Ah, l'Église, oh, parlez-moi de l'Église ». Ou bien on peut être gagné par une certaine fatigue parce qu'on s'est donné, et on n'a pas vu grand-chose en retour. Et donc Jésus dit « Change, change ». Et quand on est dans cet état, on se dit « Mais comment je vais changer ?» Et voyez, Jésus, en fait, il nous invite à nous décharger de ces émotions qui sont pesantes, qui sont négatives en nous. Change et reviens à ta conduite première. Mais quand Jésus nous demande de revenir à notre conduite première, est-ce qu'il nous demande de garder notre foi d'enfant et de faire comme si tout ça n'avait pas eu lieu ? Comme si on n'avait jamais été déçu, comme si on n'avait jamais été choqué, comme si on n'avait jamais été fatigué et parfois à hurler ou à être très frustré, fâché. Parce qu'on a trouvé que le ministère, ça nous a usé. Comment est-ce qu'on va changer quand on est dans ce genre de d'état ? Jésus ne nous demande pas de faire comme si. Jésus nous demande d'être vrai. Il nous demande de reconnaître ces émotions qu'on peut avoir, ces rancœurs, ces souffrances, ces déceptions. Il nous demande de les reconnaître, de les mettre sur la table. Il nous demande de lui renouveler notre confiance et de l'approcher. Non pas avec la foi d'un petit enfant qui vient juste de découvrir que par la foi en Jésus, ses péchés sont pardonnés, mais de revenir à Jésus, de renouveler sa confiance avec quelqu'un qui a passé à travers toutes ces expériences et qui vient en tant qu'adulte avec toutes ces bonnes et ces mauvaises expériences. Jésus ne nous demande pas de l'aimer après 5, 10 ou 50 ans de vie chrétienne, comme si on venait de découvrir le salut hier. Il nous demande, comme il dit à Jean, comme Jean le dit dans sa lettre, « Petits enfants, et puis après il dit, « Et jeunes gens, vous aimez Dieu, vous aimez Jésus, parce que vous avez appris à vaincre le diable. » Et puis il s'adresse au Père, et vous avez découvert que Dieu est tout suffisant. Quelles que soient les circonstances, Jésus est tout pleinement pour vous. Quelles que soient les circonstances, les anxiétés, les peurs, les échecs, il est toujours là pour vous. Il est toujours là pour vous saisir et vous remplir de sa vie. C'est ça que Jésus nous demande. Vous voyez, quand on parle de premier amour, souvent, on a une vision très sentimentale. Premier amour, ah oui, la joie, l'enthousiasme. Non, c'est pas ça. Ou pas seulement. L'amour premier à laquelle Dieu nous demande de revenir, ou Jésus nous demande de revenir, c'est celui de la confiance et de l'obéissance. Parce que c'est à cela que Jésus mesure notre amour pour lui. Alors je voudrais qu'on conclue, parce que je ne sais pas, on chie encore dans les temps, ou ça va ? Oui. Qu'est-ce qu'on a appris ce matin à travers l'exemple de ces deux églises ? Je crois que Jésus met en évidence le fait qu'il nous appelle à mener une vie équilibrée, sainement équilibrée. Mais cet équilibre, c'est seul, il n'y a que Dieu qui puisse réaliser cet équilibre dans notre vie. Prendre position contre l'erreur, combattre ceux qui propagent des erreurs. C'est une nécessité, c'est une responsabilité de l'Église. Et il y a dans l'Église des gens qui sont plus particulièrement responsables de ça parce qu'ils ont un don pour l'apologétique, pour la défense de la foi. Mais vous savez, ça peut être un tel fardeau, parce qu'il y a des problèmes qui sont compliqués à comprendre et pour lesquels il faut trouver des réponses bibliques. Parfois, on oublie la relation avec Jésus et on est tout entier pris par l'étude et le débat. C'est pas bon. Et vous qui, dans l'Église, avez été engagés dans d'autres domaines, vous savez très bien que votre ministère et tous les soucis qui s'ajoutent, les soucis de la vie, de la famille et du travail, tout cela peut aussi vous voler votre relation avec Jésus. Et tout à coup, voilà, vous êtes toujours là, le dimanche, vous répondez aux appels quand on vous sollicite, mais le cœur n'y est plus. La joie, l'amour pour Jésus n'y est plus vraiment. Alors, je suggère qu'il y a au moins deux conditions qu'il faut remplir pour garder cet équilibre, cet équilibre spirituel. Première des conditions, il faut entretenir notre amour pour Jésus en cultivant une relation quotidienne avec lui, une relation simple. Parce que si on n'a pas l'amour de Jésus, l'amour qu'on va avoir pour la doctrine juste ou l'engagement qu'on aura pour notre ministère va faire de nous des pharisiens, des gens qui jugent, des gens qui sont durs et des gens qui ne font pas eux-mêmes parce qu'on n'a plus l'amour de Jésus. On a juste la mécanique, mais on n'a plus l'âme, on a perdu. Ça, c'est la première condition, donc entretenir un amour vivant pour Jésus. Deuxièmement, approfondir notre compréhension des vérités fondamentales de manière à ce qu'elles deviennent des points de repère non négociables. Je vous dis, c'est très important aujourd'hui d'avoir des points de repère non négociables. Parce que si vous n'avez pas ça, vous savez ce que votre amour pour Jésus va faire pour vous ? Il va vous conduire à justifier le péché par amour pour les gens. Et ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est une autre erreur. L'erreur qu'on commettait à Thyatire, d'une certaine manière. Et il y a Jésus, résume tout cela en un verset, quand il dit, en Jean 14, 21, « Celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. » Et ça résume tout. Tout ce dont il est question dans ce message. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Vous voulez retrouver votre premier amour pour Jésus ? Gardez les commandements, gardez la vérité. Et c'est comme ça que vous serez fidèles jusqu'au bout. Amen.